Il n'y a pas le truc cliqué. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Paris Central. Aujourd'hui, on est avec de nouveau Soura et Bobo. Et bien sûr, Tonton, et on est là pour débrief le match contre Strasbourg que Paris vient de gagner 3-0. Déjà, comment allez-vous, messieurs?
Bah, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Très heureux d'être ici pour faire cette première sur Paris Central. J'espère que ça va bien se passer.
Et toi, Bobo, comment vas-tu?
Pareil, très bien, très bien. Fin de journée sympathique et merci pour l'invite aussi, c'est un plaisir.
Ouais, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Merci à vous deux de vous être joints à nous. Et on va commencer direct et je vais commencer avec une question. Est-ce que pour vous, c'est une victoire rassurante? Et on va commencer par celui qui est tout en haut, par soi.
Oui, ça reste quand même une victoire rassurante, d'autant plus qu'on était revenu de trêve internationale où il y a pas mal de joueurs qui avaient quand même beaucoup de matchs joués. Par exemple, un Lucas Hernandez, il avait joué le match dimanche face à Rennes et 3 jours plus tard, il jouait en équipe de France. Encore une fois, il est titulaire et ça montre que même Didier Deschamps a confiance en lui. Et derrière, il revient plusieurs jours plus tard à jouer avec le Paris Saint-Germain. T'as aussi Lee Kang-in qui voilà, a impressionné à peu près tout le monde sur les réseaux sociaux, notamment avec la Corée du Sud où il a été assez étincelant. Moi, ça reste quand même un match satisfaisant du Paris Saint-Germain, notamment avant la réception de l'AC Milan en Ligue des Champions. Et on se met un petit peu à l'abri, même si malheureusement, je ne suis pas très très fan de la tactique mise en place.
On en parlera juste après. Bah non, bah, on va enchaîner. Bah tiens, avec Bobo, puisque ça m'est imposé. On va commencer avec Bobo. Et toi, Bobo, est-ce que pour toi, c'était aussi un match rassurant? Est-ce que tu as des trucs à redire? Comment est-ce que tu as vécu le match?
Moi, je vais rebondir sur la dernière phrase de Soura, du coup, parce que moi, c'est le principal point qui me dérange au niveau tactique. En fait, ce match, je trouve qu'il me pose plus de questions qu'il me rassure, dans le sens où il y a plein de points dans la transition milieu-attaque où je trouve que c'était assez faible aujourd'hui. Je trouve que les points d'interrogation de type Gonzalo Ramos, de type Vitinha Ruiz au milieu, bah, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment de réponse. Donc, j'ai plus de points d'interrogation à la fin du match que de satisfaction.
Ben, vas-y, tends-toi, c'est justement des points d'interrogation. Tu parlais du milieu, tu parles de quoi précisément?
Sur la tactique, ça doit faire 4 matchs qu'on est à 4 devant. Et je trouve qu'on n'y arrive pas. Ça manque beaucoup de liens au milieu de terrain. Moi, j'avais pas mal d'espoir sur le fait de voir Kang-in Lee en 8, en 8-10 même. Et j'avoue que sur ce match, j'ai été assez déçu de son positionnement parce que je trouve que le cantonais à une aile, j'ai l'impression qu'on n'utilisait qu'un quart de son potentiel. C'est des highlights, hein, mais je l'ai vu un peu sur ce qu'il a fait ces derniers matchs avec sa sélection. Et je l'ai trouvé très intéressant dans la transition. Beaucoup d'activité. Il arrive à casser les lignes. On n'a que le profil Zaïre Emery dans ce style-là, il n'était pas là aujourd'hui. Donc, quand j'ai vu la compo, j'espérais voir Kang-in Lee au milieu. Et quand je l'ai vu cantonné sur un côté, j'avoue que j'étais assez déçu. Carlos Soler a fait son match, mais j'ai l'impression que, quels que soient les coachs, j'ai l'impression qu'on ne le met pas dans les conditions pour qu'il puisse jouer. Bon, déjà, je pense qu'il n'a pas le niveau pour le PSG, mais en plus de ça, on le met dans des conditions qui sont souvent casse-gueule. Donc, plus de questions. Et milieu à deux, quand on est sur des profils Vitinha Ruiz, je trouve que c'est trop léger dans l'agressivité. Il y a pas mal de moments où Strasbourg pouvait développer le jeu au milieu de terrain et pour moi, les deux ensemble, ça ne peut pas marcher. Et j'ai toujours du mal avec ces 4 devant. Moi, sans un 10 ou un 8, je n'y arrive pas, quoi.
Merci, OK, pour ce message. Tonton, je te laisse rebondir. Pour toi, le match, il a été rassurant. Notamment les sorties de balles, est-ce que des choses t'ont préoccupé ou est-ce que tu en retires vraiment le positif?
Déjà, il faut retenir le score, je veux dire, c'est notre troisième match qu'on va jouer en Ligue des Champions cette semaine contre l'AC Milan. On a fait un nul 0-0 contre Clermont, assez immonde avant de jouer Newcastle. On a perdu contre Nice après un retour de trêve internationale et avant le match contre Dortmund avec un match immonde, pareil, avec une défense d'Anilo Skriniar qui est effrayante et se rapprochait du niveau district en termes de technique. Et là, à l'inverse, pour une fois, avant un match de Ligue des Champions et après une trêve internationale, on prend les 3 points. On ne prend pas de but. Et ça, c'était 2 problématiques qu'on avait du mal à résoudre. L'an dernier, on prenait énormément de buts. Vraiment, à chaque match, même si on gagnait, il fallait qu'on prenne un but. Et là, on a de la solidité défensive qu'on n'avait pas avant. On gagne avec 3-0. Et bon, je ne vais pas trop m'enflammer, mais j'ai quand même bien aimé certaines choses. Notamment, j'ai bien aimé le Fabian Ruiz qui se permet en fin de match. Il ne marque pas beaucoup, lui, hein, mais quand il marque, je ne sais pas pour qui se prend, mais il met des très beaux buts. Tu as aussi un Carlos Soler qui, étrangement, et peut-être a fait son meilleur match au Paris Saint-Germain au poste de latéral droit, alors que ça fait un an qu'on n'arrive pas à l'utiliser à son poste. Donc oui, il y a des choses que je vais essayer de mettre un petit peu en positif. Cependant, oui, je rejoins quand même Bobo et Soura. Il y a quand même quelques interrogations à la sortie de ce match. Je ne suis pas un plus grand fan du 4-2-4. J'avoue que j'aimerais bien retour au 4-3-3. Mais on va quand même rester un brin positif avec les 3 points pris et l'invincibilité conservée, ce qui était quand même assez difficile à croire au début. Mais vas-y, Darius, donne-moi ton avis, je veux bien savoir le tien.
Ah non, non, mais moi, mon avis, moi, je suis host. Juste pour Solaire, quand tu dis qu'il a été utilisé à son poste, je rejoins complètement Bobo, il n'a jamais été utilisé à son poste. Et c'est peut-être la première fois où on le voit vraiment à son poste, dans le sens où il était dans le même rôle que Hakimi, à savoir avait une responsabilité de latéral, mais aussi d'apporter et de se recentrer au cœur du jeu. Et c'est quand il était au cœur du jeu qu'il a fait le plus de différence, qui est effectivement son poste. Mais on a vu aussi ses défauts, parce qu'en latéral, bah, il ne sait pas défendre, tout simplement. Soura, je vais te demander de rebondir sur ce que disait Tonton. Tonton a été rassuré défensivement. Est-ce que pour toi aussi, défensivement, on a été à la hauteur? Quelle est ta lecture justement sur l'action défensive du PSG? Peut-être la charnière, mais au-delà de ça, la capacité de défendre en groupe. Comment t'as trouvé le match à ce
déjà, on n'a pas pris de but. Et ça, c'est quand même assez important parce que le PSG, ils arrivent assez souvent, quand on mène notamment 2-0 après la mi-temps, ils se relâchent et ils se laissent faire. Et là, directement, on prend un ou deux buts. Aujourd'hui, on a été solide. Encore une fois, une magie qui sort du chapeau de Luis Enrique où tu mets Carlos Soler latéral droit. Défensivement, il a quand même pris l'eau sur certaines phases où en un contre un, il se faisait manger, mais c'est pas de sa faute, c'est pas son poste. C'est un relayeur ou un milieu offensif. Et pourtant, sur les phases offensives, il a su être présent. Maintenant, Lucas Hernandez, c'est une valeur sûre. Moi, défensivement, c'est un latéral que j'aime beaucoup. J'étais très content de son recrutement au Paris Saint-Germain. Et défensivement, tu as rajouté un Marquinhos avec un Danilo Pereira, c'est solide, il y a pas assez, c'est pas très lent défensivement quand tu dois couvrir les brèches qu'il y avait notamment sur les côtés. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et pour le coup, je pense que derrière aussi et en face, bah, Strasbourg, c'est pas terrible. Patrick Vieira, ce qu'il propose avec le Racing Club de Strasbourg, c'est pas folichon. Malgré qu'ils ont été rachetés par Todd Boehly et qu'ils nous ont fait ce mercato où on part chercher des jeunes joueurs assez intéressants à des prix avantageux quand même et coûteux, ben, y a rien qui est montré, il n'y a pas de fond de jeu. C'est encore un énième entraîneur, entraîneur ancien grand joueur qui est mis à ce poste-là, mais qui ne montre pas grand-chose. Moi, j'aurais aimé voir, par exemple, un Régis Le Bris, et je pense que ça aurait été beaucoup mieux en face de ça. Mais Strasbourg, bah, y a rien en face, et c'est une des équipes les plus faibles. Je les ai vues en commentaire, en plus, c'est une des adversités les plus faibles qu'on ait affrontées avec le PSG.
Ils sortent d'un mois quasi calamiteux, enfin, un mois avant la trêve qui était calamiteux. Maintenant, moi, il y a un point sur lequel vous ne revenez pas, c'est qu'il y a un presque but de Strasbourg. Il y a une faiblesse qui est criante sur les coups de pied arrêtés. C'est pas la première fois de la saison. C'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant parce que face à des adversités qui sont plus solides, ça peut poser vraiment problème. Bobo, est-ce que toi, tu verrais une solution justement pour les coups de pied arrêtés? Comment est-ce que déjà tu justifies cette défaillance au niveau des coups de pied arrêtés et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire mieux à ce niveau-là? Parce que c'est un vrai souci.
Précisément sur les coups de pied arrêtés, bon, c'est une question d'intensité globalement, hein. C'est une question d'implication des mecs sur le marquage. Donc, sur un match pré-Ligue des Champions comme ça, c'est pas si étonnant. Après, l'action, on va dire qu'elle est quand même assez particulière.
Ça date, depuis le début de la saison, les problèmes sur coups de pied arrêtés. On est régulièrement en retard sur les coups de pied arrêtés. Et c'est vraiment pas ce match. Ça a été mis en exergue ce match parce qu'il y a un presque but qui a été refusé, mais c'est pas nouveau. Mm-hmm.
Ouais, là-dessus, j'avoue que, ouais, mis à part de l'intensité dans les contacts, là, c'est la responsabilité de chacun, entre guillemets, de bien suivre son marquage. À part ça, c'est compliqué juste sur les coups de pied arrêtés. Après, sur celui-là, c'est vrai que ce but est assez particulier dans le sens où il y a une espèce de cafouillage au début, il y a centre au second poteau, il y a Soler qui est un peu en retard, c'est pas son poste. Bon, sur celui-là précisément, on va dire qu'on peut le prendre. Plus globalement, sur la défense, j'ai trouvé qu'ils ont été solides individuellement. Lucas Hernandez fait un bon match encore dans ce rôle-là. Il est vraiment facile parce qu'il n'a pas trop à monter. Il y a un mec devant lui qui prend le couloir. Il fait des bonnes relances. Il a de la place devant lui pour faire des bonnes relances. Donc, pour lui, entre guillemets, il est dans un fauteuil. Il est vraiment dans tout ce qu'il sait faire. Dans les duels, il est bon. Je trouve que Danilo fait un vrai bon match pour le coup. Il gagne la plupart de ses duels. En profondeur, il a bien couvert. Je l'ai trouvé intéressant. Après, moi, le souci que j'ai défensivement aujourd'hui, encore une fois, c'est au niveau du milieu de terrain. Je trouve qu'ils attaquent trop facilement au milieu de terrain. Et c'est trop léger.
Tonton, je vais te laisser réagir justement sur le chapitre défensif et au-delà de ça, sur les CPA.
Sur le chapitre défensif, comme on l'a dit, sur le but que tu encaisses sur le coup de pied arrêté défensif, est-ce que c'est réellement nouveau de cette saison? Non, on avait déjà le problème avant. Donc la
Depuis
question.
Emery, en fait.
Ouais, mais je trouve que Bobo, il résume bien le truc de bah, c'est un peu l'intensité et la responsabilité de chacun. Parce que si tu regardes l'action de but, bien qu'il soit refusé, tu as Lucas Hernandez qui
Aux
fait son
phrases.
duel, c'est un peu perdu comme un dimanche matin en district.
Et
Le
ça
ballon est
marche
récupéré
beaucoup.
à la cafouillage derrière. T'as Ramos et Vitinha, bah, ils savent pas trop s'ils doivent aller se projeter sur le ballon ou garder leur marquage. C'est Soler qui se retrouve à marquer le mec qui est buteur, alors que voilà, justement, Soler, pour le coup, on sait qu'il avait rien à faire là dans ce rôle-là. Bah ouais, je pense que c'est un peu un coup de malchance, coup de billard et organisation défensive. Mais tu ne régleras pas tous tes problèmes en 3 mois de toute manière au PSG, il va falloir du temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est travaillé de toute manière, comme tout le reste. Mais je pense que comme c'est une faiblesse, ça prend peut-être plus de temps à progresser que dans d'autres secteurs de jeu.
D'accord, parce que tu sais, moi, ce dont je me souviens, c'est sous Emery. Sous Emery, on avait fait un bond justement à ce niveau-là, que ce soit défensivement et d'ailleurs aussi offensivement, où on avait passé les 6 premiers mois à être complètement, on tiltait complètement les 6 premiers mois, on ne comprenait pas pourquoi ils jouaient systématiquement les corners à 3, je ne sais pas si vous vous souvenez. Puis finalement, on a eu des vraies réponses à ce niveau-là. Et donc pour toi, c'est clairement, faut être patient. Pour
Bah, je
l'instant,
pense,
les
oui.
CPA, on n'est pas bon, que ce soit offensivement ou défensivement, mais ça va venir avec le travail, donc.
Bah ouais, parce que si tu regardes depuis le début de la saison, tu vois des progrès dans beaucoup de secteurs de jeu quand même. Je veux dire, comme je dis, l'invincibilité cette saison, c'est quelque chose qu'on n'avait pas la saison dernière et on l'a de plus en plus cette saison. On sait conserver nos cages inviolées dans un match, on sait procurer très peu d'occasions à l'adversaire et ça, on avait du mal aussi l'an dernier. On se faisait constamment transpercer entre l'attaque, le milieu et la défense. Il y a quand même des progrès dans beaucoup de domaines de jeu du côté du Paris Saint-Germain. Cependant, je pense qu'il faut être patient. C'est comme quand je vois certains constats définitifs tirés sur certains joueurs dans le chat. Tu ne peux pas demander en 4-5 mois d'arriver à faire tout gommer, tous les défauts d'une équipe, toutes les problématiques et faire en sorte que tout devienne enchanté. Je veux dire, même les meilleurs coachs prennent du temps et, pour réussir à leurs objectifs. Donc, je vois pas pourquoi ce serait différent au PSG en fait.
Ok. Bon, on va passer sur le deuxième point. Alors là, je m'y perds avec toutes mes fenêtres. On a eu, mine de rien, on a eu pas mal de remplaçants. C'est là où il faut que je fasse tous mes fenêtres parce qu'avec ma mémoire, je me souviens même plus qui n'était pas l'habitude. Donc, on a eu Danilo qui n'était pas là l'habitude. On a eu Soler qui n'était pas là l'habitude. Fabian Ruiz. Barcola, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un remplaçant? On ne va pas en parler tout de suite parce qu'on va faire un petit focus sur lui après. On a eu Kanginli et Gonçalo Ramos, c'est pareil. C'est un peu entre les deux. Pour vous, sur tous les joueurs cités, donc à part Barcola, qui est-ce qui a marqué des points? Je vais te laisser commencer, Bobo.
Qui a marqué des points? Ruiz fait son match, même si j'ai du mal avec lui dans un milieu à deux. On a beau dire, mais Soler fait son match, même si, voilà, pour moi, il peut pas jouer ici. Il a malheureusement pas le niveau pour jouer au PSG. Moi, j'avoue qu'il y a un truc que j'ai pas compris, c'est comment ça se fait que Mukiele se retrouve pas titulaire dans un match comme ça. Il fait une rentrée avant la trêve internationale, il a dû pouvoir s'entraîner. Et là, on se retrouve avec Soler arrière droit alors qu'il y a Mukiele sur le banc et qui rentre. Ça, j'avoue que c'est une interrogation que j'ai. Ensuite, Barcola fait son match. Bon, peut-être ton. Ouais.
On va revenir sur Barcola juste après,
Ah,
justement,
ok.
mis à part lui. Pour toi, qui est-ce qui t'a tapé dans l'œil chez les remplaçants aujourd'hui?
Taper dans l'œil, pour le coup,
Personne?
non, personne. Kanginli, je suis frustré. Clairement, je suis frustré. Kanginli,
Oh,
c'est de
bah,
la frustration parce que sur le côté, je trouve qu'il a le coup de rein, ça se voit en un contre un pour faire la première différence. Mais ça, il peut l'utiliser au milieu du terrain. Clairement, sur le côté, derrière, il y a le latéral qui va revenir et il ne peut pas le faire. Donc, je trouve que son potentiel est clairement pas utilisé. On voyait qu'il se collait à la ligne du fait du positionnement qu'on lui demandait, mais que c'était assez contre nature. Donc, Kanginli, frustration. Mais bon, dans l'absolu, il fait pas un bon match, quoi.
d'accord. Bah, je vais vite te laisser commencer à tonton du coup. Toi, est-ce qu'il y en a qui t'ont tapé dans l'œil, qui t'ont impressionné?
Je sais pas si je dirais taper dans l'œil, mais je pense que les
Ouais, tapé
performances
dans.
de certains profitent à d'autres. Et quand je vois par exemple, c'est la performance de Ramos, je dirais pas qu'il était très bon, mais il savait qu'il était obligé d'être collectif et de faire beaucoup de mouvements pour aider parce qu'il toucherait pas beaucoup de ballons s'il restait comme neuf fixe. Et quand tu vois l'entrée de Randal Kolo Muani à ce poste qui a bah, pas été bonne, tu vois, c'est un fait. Bah lui, il marque un point pour le coup. Pour le coup, c'est plutôt Randal des deux qui doit s'inquiéter pour savoir qui doit être numéro 9. Il y a certains joueurs, bah, dans ce cas-là, tu vois, Lucas Hernandez, lui, il est serein. C'est Kurzawa qui rentre à sa place, numéro 97, il n'en a plus rien à faire. Il est serein, Lucas Hernandez, il n'a pas de concurrence. Moukele aussi, je pense qu'il peut marquer des points par sa polyvalence, parce qu'il peut aussi bien jouer dans la défense centrale à 3 qu'à 4. Il a déjà fait à Leipzig. Il peut jouer défenseur droit. Donc lui aussi, il marque des points parce que Carlos Soler a fait ce qu'il a pu à ce poste, mais ce ne sera jamais un vrai latéral droit, contrairement à lui. Donc je dirais que Moukele et Ramos ont marqué quelques points. Après, c'était un match un peu compliqué, donc je dirais pas qu'il y ait des joueurs qui m'ont tapé dans l'œil et que j'ai trouvé incroyable, même si certains ont confirmé certaines choses, comme Barcola, tu vois. Barcola, je l'aime bien et je pense qu'il a vraiment une place à gagner dans cet effectif. Mais sinon, pas de taper dans l'œil plus que ça, quoi.
D'accord. Pour toi, il n'y en a aucun qui a bousculé la hiérarchie ou en tout cas apporté des réponses.
Ben, quand tu vois, c'est ce que je disais, ben, tu vois Ramos, Randall, c'est plutôt Ramos qui a l'air gagnant quand tu vois les rentrées de Randall à ce poste qui ne sont pas spécialement pertinentes. Et même si Soler a de l'esprit, comme dit Kevin, hein, il le dit bien, Soler ne sera jamais un arrière-droit alors que Moukele en est un.
D'accord. Soura, excuse-moi.
Oui.
Non, pas. Il y avait quand même lui. Donc, Soura, est-ce que pour toi, il y a des remplaçants qui ont marqué des points, qui ont montré qu'ils pouvaient être au moins une réponse pour certaines choses?
Une réponse, potentiellement, Kang In-Li peut être une réponse sur le côté droit, si et seulement si Luis Enrique revient à 4-3-3 assez basique. Parce que, comme l'a dit Bobo, quand tu es aussi excentré sur ton côté droit, alors que tu es un joueur qui de base repique sur ton pied gauche pour pouvoir soit essayer de combiner avec, par exemple, la Gonzalo Ramos, et soit il te met une remise et tu retires un peu comme ce qu'avait fait Kylian Mbappé et Lionel Messi pour son but face à Manchester City, ou sinon essayer de faire un décalage et de changer d'aile avec un Bradley Barcola. Et ça peut être intéressant. Ou sinon, tu décides de... tester Lee Kang-in, comme ça avait été dit par Luis Enrique, au milieu de terrain, le mettre au milieu de terrain, voir ce qu'il peut donner dans le domaine créatif, parce qu'on l'a vu sur le deuxième but où Kylian Mbappé arrive aisément à éliminer le latéral pour la donner à Carlos Soler. C'est lui qui amène le bon ballon, c'est lui qui a qui allume la lumière en fait directement pour ouvrir le score. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Maintenant, sur les remplaçants qui ont été titulaires aujourd'hui, Gonzalo Ramos, pour moi, c'est lui qui doit être titulaire parce qu'il a cet instinct de numéro 9 au sein du PSG. Randal Kolo Muani, c'est encore beaucoup trop brouillon. Techniquement, on l'a vu, il a beaucoup, beaucoup de mal. En Bundesliga, je pense qu'il avait les espaces pour pouvoir s'exprimer et vraiment être à son aise. Maintenant, en Ligue 1, il y a très peu d'espace, c'est très resserré. Tel Paris Saint-Germain, on va t'attendre à chaque match et on ne va pas te laisser beaucoup de champ d'action. Et on l'a vu, Gonzalo Ramos, il a été capable de le faire sur ses deux buts face à l'Olympique de Marseille. Deux bons ballons, deux buts, et il a réussi à le transformer. Maintenant, sur le latéral droit, Moukele, en plus d'être un joueur polyvalent, c'est quelqu'un qui sait être dur sur l'homme et qui arrive à pouvoir contenir les offensives d'ailier gauche, par exemple un Rafael Leão. Si jamais tu décides de le faire rentrer à la place d'un Achraf Hakimi pour pouvoir densifier un peu plus ta défense centrale, et bien ça peut être intéressant.
Okay. Maintenant, là-dessus, je vais me permettre d'intervenir. Moi, j'ai trouvé que Soler apportait une réponse essentielle, dans le sens où on avait un Hakimi qui fonctionnait bien en début de saison, avec justement ce rôle hybride entre latéral et latéral qui se repique au centre. Et Soler a montré qu'il était capable de le faire, même si défensivement, ce n'était pas au niveau. Et donc, ça va nous permettre de rester là-dedans. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et pour moi, comme tonton, Gonzalo Ramos a marqué une tonne de points. Son jeu sans ballon, ça a été exceptionnel. Il a provoqué énormément de choses, au-delà du pénalty obtenu et du but. Je ne sais plus, il a marqué un but ou pas, j'ai un trou de mémoire.
Qui ça?
Non, le pénalty obtenu et en tout cas les déplacements, il a été formidable. Il a amené énormément de danger. Pour moi, c'est les deux qui ressortent beaucoup. Et un troisième, Barcola. Alors, il y en a certains qui disent que Barcola, je ne retrouve plus le message, mais que Barcola était bien, mais pas non plus top. Je vais commencer par dire ce que je pense pour une fois. Pour moi, Barcola doit avoir beaucoup plus de temps de jeu. Tonton, arrête de rester dans le chat et reviens avec nous.
Justement, j'essaie de remonter le chat pour te le faire.
Barcola, pour moi, mérite d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. Il apporte une réponse qui est beaucoup plus cohérente, notamment qu'un Dembélé. On va commencer, je sais pas avec qui veut. On va commencer avec Bobo parce que tu es en haut. Est-ce que pour toi Barcola doit jouer plus ou pas?
Par rapport à un Dembélé qui était très moyen dans ce qu'il fait aujourd'hui, oui, clairement, dans une concurrence normale, il doit jouer un peu plus. Alors je pense qu'il y a Ousmane Enrique qui essaye de préserver Ousmane Dembélé psychologiquement, parce qu'il est tellement focus sur son premier but et sur le fait qu'on dise qu'il n'est pas décisif. Je pense que ça pèse beaucoup sur Dembélé aujourd'hui dans ses prestations. Il y a plein de choix pour moi qui sont dictés par justement le fait qu'on lui reproche de ne pas être assez précis dans le dernier geste. Et je crois que ça lui pèse. Donc, Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il ne peut pas le griller de ce point de vue-là. Mais sinon, dans une concurrence logique, ouais, pour moi, Barcola, il devrait jouer plus. Ouais. Après, aujourd'hui, il part de plus bas par rapport à si on était vraiment avec trois joueurs devant. Je trouve qu'il part de plus bas. Donc, lui reprocher d'être pas forcément réaliste. Je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Il ne perd pas beaucoup de ballons. En un contre un, il passe pratiquement à chaque fois. Donc, très honnêtement, je trouve que son match est quand même vraiment bon. Et défensivement, il revient à chaque fois. Donc, honnêtement, moi, je trouve qu'il fait un bon match ce soir. Et oui, clairement, il gagne des points. Il doit jouer plus.
Soura, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match de Barcola? Et est-ce que tu aimerais le voir un petit peu plus?
Moi, j'aimerais le voir un peu plus. Après, par rapport aux jeunes, je trouve qu'il faut quand même faire attention dans l'usage du temps de jeu qu'il y a avec eux. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a Warren Zaïre-Emery qui est titulaire, qui joue beaucoup de matchs. Mais ça peut être aussi un danger pour certains jeunes d'enchaîner 35, 40, 45 matchs. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Pedri. Pedri, chaque saison, il y a au moins une blessure de 2 mois ou 3 mois parce qu'il a eu sa fameuse saison où, comme les joueurs de NBA, il a joué plus de 70 matchs et avec 90 minutes dans les jambes pour la plupart. Je trouve qu'il faut varier, trouver le bon équilibre avec Bradley Barcola sur le temps de jeu. Et ce qui peut être bien aussi, c'est que si jamais on voit que Dembélé, c'est toujours aussi brouillon et c'est toujours aussi assez amorphe dans les prestations, eh bien, tu peux faire jouer un Barcola à droite, un Mbappé à gauche et avoir une animation qui va être variée entre un Mbappé qui va pouvoir repiquer sur son pied droit et essayer de tenter la frappe ou de repiquer et avoir un Bradley Barcola qui, lui, va coller la ligne, essayer d'aller au duel, d'être un peu provoquant, d'apporter un peu plus de percussion sur son côté droit et c'est être une rampe de lancement, pourquoi pas aller centrer et délivrer de bons ballons sur Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos parce que ça reste des joueurs avec une grande taille. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Et aussi, il ne faut pas oublier, Marco Asensio n'est toujours pas revenu de sa blessure. Donc finalement, Luis Enrique va avoir un petit peu un problème de riche.
Vas-y tonton, comme ça tu parleras plus sur le chat et tu parleras en direct.
Moi, je réponds au chat quand on m'interpelle gentiment, en tout cas. Mais oui, sur Barcola, il mérite. Barcola, oui, il mérite dans le sens où ce que j'aime bien dire de lui, c'est que c'est un joueur de collectif. C'est un joueur qui, avant de penser à sa tronche, il va penser à l'équipe. Et ça se voit, je veux dire, c'est un mec qui, comme ça a été dit précédemment, il vient faire les retours défensifs, son jeu sans ballon est très intéressant, et même offensivement, il est intéressant. Mais je rejoins Soura sur le fait qu'il ne faut absolument pas griller ce joueur de la même manière qu'il ne faut pas griller un Warren Zaïre-Emery, qui d'ailleurs n'était pas là pour blessure, il me semble. Donc oui, je rejoins l'exemple de Pedri, qui est peut-être le meilleur et qui est validé, et je pense que Barcola, il faut prendre le temps avec lui, il va progresser, ça se voit, il a la bonne mentalité pour, et si tu lui donnes le bon temps de jeu pour, il va vraiment progresser. Et après, c'est plus une question de profil, en fait, parce que, mine de rien, on a des profils très variés en attaque. Dans le sens où Mbappé va jouer sur l'aile gauche, mais c'est clairement un ailier buteur. On a Randal Kolo Muani qui est censé jouer neuf en concurrence avec Ramos, mais moi, je vois plus Randal dans le même rôle que Mbappé, même si Randal est moins bon que Mbappé. On a Ousmane Dembélé qui est censé être un dynamiteur qui fait plus de passes décisives que ce qui marque de but. J'attendrai jamais d'Ousmane Dembélé qui fasse une saison à 20 buts parce qu'il ne l'a jamais fait. Par contre, j'attends de lui une saison à 20 passes décisives. Et ça, je serai à l'heure avec lui à la fin de la saison. Il a intérêt à les faire. Et quand tu vois Kanginli et Asensio, Asensio peut jouer ailier droit ou faux neuf. Kanginli, c'est un meneur de jeu excentré, c'est un dribbleur. On a une palette de profils tellement variée qu'au final, même si les joueurs sont compétents, je pense que ça dépendra des matchs qu'on va jouer, du profil dont on aura besoin à l'instant T. Mais bien sûr que si tu poses sur Barcola, il doit jouer plus. Il mérite clairement. Son profil fait qu'il mérite de jouer, son attitude fait qu'il mérite de jouer, et son jeu sans ballon, dans un jeu où tu dois faire beaucoup de contre-pressing, mais bien sûr que tu es obligé de le mettre de plus en plus ce mec. Mais il va falloir doser quand même.
J'entends, mais si tu veux, moi, il y a une... Alors, je crois que c'est vers la 60e, où tout à coup, je crois qu'il est avec Mbappé, et il crée un espace. Et on a combien de joueurs qui sont capables de créer des espaces dans des petits espaces où il arrive à trouver un appel qui est formidable. On a combien qui sont capables de les faire avec cette célérité-là, mis à part lui et Mbappé. Et je trouve qu'il offre une complémentarité. Et j'entends l'argument du physique, mais je pense qu'il ne peut plus jouer, surtout qu'il y a certains titulaires. Tu vois, tu parlais de Dembélé. Dembélé, oui, ça serait bien s'il est avec ses 20 passes D, mais en tout cas, pour l'instant, il n'en prend pas le chemin. Il faudrait qu'il se réveille. Là, il fait une rentrée où il rate pas mal de choses. Et donc le voir, avoir un peu plus de temps de jeu, moi, j'aurais rien contre. Est-ce que quelqu'un voulait réagir dessus ou sinon on passe au point d'après?
Ouais, je voulais terminer là-dessus.
Vas-y.
Bah, le problème, c'est que là, j'ai l'impression que pour titulariser Barcola, tu ne sors pas un des trois de devant. Donc, tu restes à quatre devant et tu crées le déséquilibre. Donc, il y a aussi ce Schmidblick-là à la résoudre. C'est si Barcola joue, ok, mais dans quel schéma et dans quel dispositif? Parce qu'il va y avoir embouteillage à un moment si tu continues en 4-2-4. Pour moi, tu dois repasser au milieu à 3. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une...
On en parle après, mais la solution, elle est évidente. T'as des rotations qui peuvent se faire. T'as un poste d'axial qui est à trouver.
Mais Barcola peut même jouer dans l'axe.
Il peut jouer côté gauche, il peut jouer côté droit, il peut suppléer. Et si tu veux, au niveau de la rotation, elle peut être claire. Mais attention, c'est la première fois que je vais lancer un jingle. Donc, messieurs, accrochez-vous, je vais presque réussir à cliquer. Et donc, oui, bien sûr, parce que j'ai eu un bug. Et donc, on va se lancer dans la petite minute tactique. Alors, c'est un truc, on l'a vu beaucoup de fois. Une première fois contre Marseille, on a été super joyeux, c'est super bien passé. On l'a vu deux fois après, c'était pas loin d'être le cataclysme. Ça a été laissé tomber. C'est revenu aujourd'hui, c'est le milieu à deux. Pour vous, que faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Est-ce qu'il faut le remettre en cause? Qu'est-ce que tu en penses, tonton?
Bah, je viens à moitié d'y répondre quand on parlait de Barcola juste avant.
C'était pour ça que je t'ai interrompu.
Voilà, non mais t'as bien fait, t'as très bien fait. Mais justement, à l'image de, pour moi, le match qui va vraiment mettre en lumière de pourquoi on ne doit plus jouer dans ce dispositif, c'est le match contre Newcastle. Et vraiment, il y a une photo que j'ai prise à un moment du match, j'ai fait exprès, j'ai pris le téléphone, j'ai pris la photo parce que ça m'a choqué. Tu vois la ligne des quatre défensifs, tu vois nos deux joueurs au milieu qui sont tout seuls et t'as six joueurs de Newcastle dans cette zone qui les empêchent de jouer. Et tu vois les quatre de devant qui les regardent en mode, putain c'est dommage, ils ont l'air embouteillés les gars. Et pour cette raison-là, c'est un schéma qui risque de se reproduire dans d'autres matchs de très haut niveau. Barcola, son QI football, ouais, il est intéressant, je suis d'accord.
Mais justement, il est super intelligent dans ses choix.
Dispositif, il va marcher contre Strasbourg, qui va jouer à 5 derrière, il va marcher contre certaines équipes qui vont avoir peur du PSG et qui vont jouer comme des hérissons contre nous. Mais quand on va affronter du Newcastle au match retour, parce qu'on a eu le match aller, le match retour va se produire, quand on va jouer contre l'AC Milan, quand on va jouer contre le Borussia Dortmund à l'extérieur, parce qu'on les affrontait qu'à domicile pour le moment, si tu ressors ce 4-2-4 et que tu relaisses tes milieux dans la même panade et que autour, l'attitude de tous les joueurs autour des milieux, c'est la même que contre Newcastle et que tu as le même déchet technique qu'à Newcastle, parce que tu auras le même déchet technique si tu prends la même direction, bah va pas falloir être étonné de prendre encore des claques cette saison. Donc on sait que Luis Enrique, il est têtu et c'est son principal défaut. Voilà, il regardera pas nos lives et encore moins en français. Hein. Mais je pense que Luis Enrique,
il est en train d'apprendre le français avec nos lives. En fait, c'est sa source pour enfin maîtriser le français. Et puis un peu le football et tout. Mais d'abord, il commence le français, il fera le foot après.
D'accord. Donc si tu dis qu'il nous écoute, donc dans ce cas, je vais être plutôt poli, je vais m'exprimer dans sa langue. Luis Enrique, por favor, tres mediocampistas.
Nine en espagnol, pas d'espagnol. Bobo, est-ce que déjà pour toi, pour revenir sur ce match, est-ce que pour toi ça a été satisfaisant les sorties de balles avec le milieu à deux? Et qu'est-ce que tu penses du milieu à deux? Est-ce que c'est une idée qui doit être abandonnée? Est-ce que pour toi Luis Enrique a raison de continuer là-dessus? Est-ce que tu vois une lumière quelque part avec ce milieu à deux? Comment est-ce que tu sens ce milieu à deux d'un point de vue tactique?
Je vois aucune solution où ça peut marcher. Non mais clairement, je vois aucune solution où ça peut marcher. Aujourd'hui, j'ai vu plein de fois Vitinha ou Fabien Ruiz qui se retournent, donc qui font les bons gestes, qui se retournent, qui sont face au jeu et qui n'ont pas de solution et qui sont obligés de revenir derrière. Et c'est arrivé plein de fois et tu vois Kanginli qui est à 20 mètres de là, qui n'est pas atteignable et tu te dis mince, il manque quelque chose et ça aurait pu le faire. Et moi, je voyais en plus hier, il y a l'interview d'Enrique qui dit justement que Kanginli dans cette équipe-là, il a plutôt un profil de milieu. Je me dis parfait, on va le voir en 8-10, là où j'aurais aimé le voir. Et là, j'ai l'impression que cette équipe avec 4 devant, mais ça nous génère que des problèmes. J'ai l'impression que, alors ça c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'intensité du pressing, depuis qu'on joue à 4 devant, on a perdu beaucoup d'intensité au niveau du pressing, on récupère moins de ballons hauts. Typiquement, pour moi, le match référence de la saison pour le moment, c'est Dortmund. On avait été très bon dans ce secteur de jeu avec Ugarte qui impulse, Zaïre Emery et Vitinha qui y vont du coup parce que Ugarte lance le truc et les trois devant qui du coup suivent. Ben là, du coup, je retrouve que quand ils se retrouvent à 4 devant, ben, ils se regardent un peu. Toi, tu y vas, j'y vais. Il y a Mbappé qui, du coup, qui est un peu plus en dilettante. Je vois aucun intérêt à ces 4 joueurs devant. Et là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai trouvé ça criant. Encore une fois, j'ai vu plein de fois Ruiz ou Vitinha se retourner avec le ballon dans le bon tempo et ils n'avaient pas de solution. Alors, il y a plusieurs fois Ramos qui est venu redescendre au milieu, qui faisait appui, qui remettait le ballon. Mais c'était trop léger, et je trouve qu'on manquait de solutions cruellement au milieu de terrain. Et en plus de ça, quand tu vois que défensivement, dans les duels et dans le pressing, bah, du coup, les deux, quand tu as Vitinha et Ruiz, pour moi, ça manque d'intensité, ça manque de physique, ça manque de duel. Je vois aucun intérêt à ce milieu à deux, quels que soient les joueurs qu'on peut mettre, hein, quel que soit peut-être que le plus viable, ça pourrait être éventuellement Zaïre Emery et Ugarte. Et encore, Vitinha fait du bien. Et c'était contre Newcastle et ils se sont fait manger. Donc, au final, je vois pas de solution. Vraiment, je vois pas de solution dans ce milieu à deux. Alors qu'à trois, il y a plein de solutions potentielles. Avec des 8-10, on peut mettre Vitinha, Kanginli, Ugarte. En Ugarte, en point de base, de toute façon.
Vraiment un problème de remplaçant. Tu peux avoir un problème de remplaçant à 3 si ça se pète dans la partie basse du milieu.
Mais moi, Asensio en 8, limite, ça me va. Enfin...
C'est pas pour le poste de 8 haut, c'est pas pour le poste de 8 offensif que tu pourras avoir des problèmes de remplaçant. C'est pour justement pour les deux autres. C'est pour le 6 et le 6-8. Parce que là, si t'en as un des deux qui se baisse, et ça peut être un des arguments, une des raisons.
Ouais, c'est le talent d'Achille de notre effectif, hein, clairement. Qui est derrière Ugarte, quoi.
Et toi, Sora, du coup, quelle est ta lecture justement sur ce milieu à deux? Est-ce que Enrique, pour toi, a raison en fait de rester là-dedans et qu'il va arriver à quelque chose comme Drixinho le disait tout à l'heure? Est-ce que c'est juste, il faut juste une question de philosophie de l'équipe et réussir à trouver quelque chose, ou est-ce que comme Bobo, tu penses que milieu à deux, pas de futur?
Bah, ça dépend, parce que le double pivot au Paris Saint-Germain, c'est pas quelque chose qui avait souvent marché. C'est quelque chose qui faisait souvent même défaut. On n'a pas forcément cet ADN-là de jouer en 4-2-3 ou en 4-4-2, plus là en 4-2-4. Et le problème, c'est que même quand on joue en 4-3-3 avec Vitinha, ben en fait, ça reste toujours un 4-2-4 en phase offensive avec un Vitinha qui va être très excentré. Et donc, du coup, on va avoir Kylian Mbappé qui va être collé à l'attaquant de pointe. Donc, dans tous les cas, même si dans les intentions, Vitinha, ça va être quand même assez différent et nettement aux antipodes que ce que peut proposer un Bradley Barcola ou un autre ailier. Dans tous les cas, on restera dans ce 4-2-4. Et je pense qu'il a vraiment cette idée en tête, qu'il va vouloir s'entêter, qu'il va vouloir mettre en place. Et c'est pour ça que j'avais cité Asensio, parce qu'au début, notamment face à Lorient et face au RC Lens, Asensio, il arrivait à être très complémentaire et avec Dembélé et avec M. Kylian Mbappé. Et donc, il n'y avait pas forcément besoin de rajouter ce milieu de terrain-là à côté de Kylian Mbappé. Et c'était très intéressant, parce que tu avais beaucoup de permutations en attaque. Et là, le 4-3-3, le milieu à 3 notamment, était assez dominant. Et donc, il faut voir comment tu vas réussir à incorporer certains joueurs dans ton équipe. Le 4-2-4, ça peut passer. Mais le problème, c'est que l'intensité, il faut que tu saches la mettre au bon moment. Et surtout que tu arrives à la tenir. Parce que Newcastle, sur 70 minutes, ils sont capables de te mettre une énorme intensité, que ce soit Joel Linton, que ce soit Bruno Guimaraes, ou que ce soit Tonali.
Newcastle, ils étaient 5 au milieu quand on était 2.
Tonali, petite bourre, t'es pas prêt de le revoir.
Voilà, bon, déjà, lui, on ne le reverra pas. Et c'est dommage, parce que, bon, comme par hasard, quand on affronte Newcastle, on affronte Tonali. Mais du coup, quand on va affronter l'AC Milan, avec un petit Jenny Reinders, avec un Loftus-Cheek, qui, pour moi, Milan a un petit peu le même problème que nous, c'est qu'ils ont 3 milieux titulaires. Et après, au remplaçant, t'as Krunic, t'as Yassine Adli. Bon, moi, j'aime beaucoup Yassine Adli, vu qu'il est formé dans la ville où j'habite. Mais en tout cas, il y a du potentiel. Il y a quelque chose à faire pour Luis Enrique. Il faut lui laisser du temps pour voir où est-ce qu'il a
emmené en fait, cette après, équipe. Mais tu vois, par exemple, moi, il y a une chose. Alors, tu vois, Drixinho, lui, il y tient. Moi, je trouve que nos sorties de balle, une fois qu'on a la balle et entre nos centraux ou entre les deux milieux, c'est juste à zéro solution. Et ça, d'une manière répétée. Alors après, peut-être que c'est une question d'équilibrage, mais j'ai du mal, en fait, à voir avec quel équilibre on va pouvoir trouver des solutions comme ça. Je te laisse répondre, Soura, parce que tu semblais dire que pour toi, si tu y croyais, mais comment est-ce que tu expliques que, tu sais, ils sont bloqués derrière. Tu as eu quelques ballons de Marquinhos, d'ailleurs assez intéressant là-dessus, qui a recommencé à tenter les ballons longs et qui recommence à les faire parce que ça tardait qu'il les fasse. Mais sinon, réussir à sortir, une fois que tu es dans les 40 mètres adverses, là, tu es capable de trouver des accélérations et tout. Mais quand tu es dans des 30 ou tes 40 à toi, sortir, c'était extrêmement compliqué, même contre Strasbourg.
Bah après, quand tu as des équipes qui viennent te sortir dessus et qui viennent aller au pressing un petit peu et que tu n'as que seulement deux milieux de terrain dans cette zone-là, c'est un peu compliqué. Après, ça aussi, ça se travaille à l'entraînement, et c'est de travailler des schémas de passe, des bons circuits, de savoir quel joueur est placé où. Est-ce que Dembélé, il est à droite? Est-ce qu'il est bien à droite? Ça aussi, c'est au milieu de terrain d'avoir cette vision de jeu et cette vue d'ensemble autour du terrain pour voir qui est placé où. Et ça, je pense que ça va être aussi le travail de Vitinha et d'un Lee Kang-in si jamais il est venu et amené à être au milieu de terrain, c'est d'avoir en fait les yeux partout, de regarder, de scanner qui est à droite, qui est à gauche, où est le placement de Mbappé, est-ce que Mbappé est vraiment si proche de l'attaquant, est-ce que les milieux, et pour le coup, le 4-2-4, là, il peut servir si tu pars en transition, parce que là, tu as deux ailiers qui collent la ligne et qui vont rester très excentrés, qui ne seront pas forcément.
Tu es capable de les trouver, tes ailiers. Si t'es deux joueurs, en fait, ils sont bloqués par trois joueurs adverses. Comment est-ce qu'ils vont trouver la ligne de passe pour aller chercher ton ailier?
Tout dépend si tu fais une sortie d'un Gonzalo Ramos qui vient décrocher ou un Kylian Mbappé qui vient décrocher.
Ouais, pareil, t'avais Soler aussi qui faisait ça beaucoup. Ce soir.
Et obligatoirement, t'as un défenseur qui va être obligé dessus parce que tu peux pas laisser Mbappé tout seul parce qu'il a quand même cette vision de jeu, il a quand même cette palette technique, il sait faire et donner un bon ballon. Donc ça aussi, comme je l'ai dit, ça a besoin de temps. On sent que l'équipe est pas prête. Elle est pas prête et. C'est aux prémices et c'est aux genèses de pourquoi pas voir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais c'est là aussi où tu dis à certains joueurs, il faut qu'ils fassent du dépassement de fonction. Il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui fassent des appels, qui viennent décrocher, qui viennent demander les ballons dans les pieds.
J'entends ce que tu dis. Après, moi, pour moi, tu as raison. En fait, une fois qu'on avait passé les 50 mètres, ce que tu décris, c'est ce qu'on voit une fois qu'on avait passé les 50 mètres. Quand on était acculé, bah, peut-être que c'est parce que les autres ne faisaient pas assez les efforts pour revenir. En tout cas, c'était extrêmement compliqué. Alors, très rapidement. Avant de relancer Tonton, parce que je sens qu'il a envie de répondre, on a 49 likes sur 300, ça fait quoi 35 minutes, ça fait presque 40 minutes. Si vous êtes toujours avec nous, s'il y a toujours 300 personnes avec nous, sans déconner, vous pouvez faire mieux. 49 likes, là, on n'est pas loin du foutage de gueule, c'est 2 secondes, c'est juste vous appuyer sur le petit pouce. Nous, ça nous aide, c'est chiant pour nous hein, de faire à chaque fois le rappel, mais j'imagine un petit peu agaçant pour vous de l'entendre. Mais juste faites-le, c'est un petit réflexe, on met le petit pouce, on nous donne de la force et comme ça on continue. Si vous êtes avec nous depuis 40 minutes, enfin pas tout à fait 40, c'est que vous kiffez quand même ce qu'on fait, donc envoyez-nous la force s'il vous plaît. Je te laisse réagir, Tonton, j'avais l'impression que tu voulais réagir.
Ah non, même pas, j'écoutais, non, vraiment, je te laisse enchaîner sur le sujet suivant.
Ok, d'accord. Justement, on va commencer avec toi, Soura. Tu avais envie d'en parler. Donc, calendrier, la dernière fois qu'on avait match de Newcastle, le match d'avant, c'était pas bien passé. Là, le match s'est bien passé. On a un match mercredi contre le Milan AC, le retour de la Champions League. Comment est-ce que tu sens ce match? Est-ce que le match d'aujourd'hui t'a rassuré pour mercredi?
Ça m'a quand même rassuré parce qu'on a quand même réussi à remporter notre match avec un effectif assez remanié. Et pour le coup, je l'avais dit à un ami qui supporte l'AC Milan, l'AC Milan affronte le Paris Saint-Germain au pire moment. Parce que là, on est au dos au mur, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller chercher la victoire. Déjà, au parc, on doit chercher les 3 points et ça, c'est obligatoire. Et au San Siro, l'objectif, ça va être de limiter la casse et d'aller chercher au moins un match nul.
T'as déjà perdu 3 points.
Hein. C'est ça.
C'est un petit peu plus, quoi.
Ouais, on a perdu 3 points. Il faudra chercher beaucoup de victoires. Face à Newcastle aussi, on n'aura pas le choix. Mais Milan nous affronte au pire moment. Le Paris Saint-Germain, au pied du mur, c'est une équipe qui est dangereuse. C'est une bête blessée. En phase de poule, le Paris Saint-Germain aussi, c'est peut-être l'une des meilleures équipes d'Europe sur les 10 dernières années. On perd très peu. Soit c'est une deuxième place, soit c'est une première place qu'on arrive à avoir à l'arracher. Et souvent, dans les groupes de la mort, où certains nous disaient, par exemple, Naples, Liverpool, ah, le PSG, bizarre, ils vont finir troisième, ils vont aller en Europa League, au moins pour une fois, ils pourront tester la compétition. Non, Di Maria allume la lumière face à Naples, face à Liverpool à domicile, on remporte notre match. Le groupe avec Leipzig et Manchester United, ah, bizarre, le Paris Saint-Germain est malade, ils ont perdu face à Leipzig. Non, on allume encore une fois la lumière et cette fois-ci, on fait un beau parcours. Au pied du mur, le Paris Saint-Germain arrive toujours à trouver une solution, que ce soit d'un joueur, que ce soit d'une force collective. Surtout qu'en plus, il y aura le collectif Ultra Paris. Les Ultras seront présents, ils ne vont pas être bannis. Et ça aussi, ça va jouer et ça va avoir son importance. Donc là aussi, je suis assez confiant. Après, je ne dis pas que c'est déjà joué d'avance. Hein, là, c'est Milan, c'est renforcé. Ils ont fait de très, très bonnes recrues. Chukwueze, ils ont conservé Léao et ils l'ont prolongé. D'ailleurs, j'ai hâte de voir cette opposition face à Hakimi. Et j'ai aussi hâte de voir Mbappé face à Calabria, parce que ça aussi, ça peut être très intéressant et peut-être aussi très marrant. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour ce match.
Et toi, Tonton, alors, match mercredi, mais au-delà, la lecture d'aujourd'hui par rapport au match de mercredi?
Je ne ferai pas la même lecture dans le sens où ce ne sera pas le même adversaire. Il ne va pas aborder le match de la même manière. Dans le sens où, il faut dire ce qui est, il y a cette espèce de complexe chez Pioli, je dirais presque de la peur en fait, quand il affronte une grosse équipe, et il se sabote tout seul dans ses compos. Donc je ne te dis pas qu'il va forcément faire ça contre le Paris Saint-Germain, mais il n'est pas très en confiance en général et ne tente pas des choses qui pourraient lui permettre de réussir justement dans ce genre de match. Donc à voir comment ça se déroule. Je sais qu'on est au Parc des Princes pour le match aller, donc il y a un certain avantage quand même aussi. Et c'est vrai que Soura le souligne bien, le PSG est dans l'obligation de gagner contre l'AC Milan, donc tu dois quand même de faire un gros match. Ça va dépendre aussi de l'intensité que tu mets, parce que si tu mets la même intensité que contre Newcastle et que tu as la même réussite technique, bah ça va être très très compliqué. Si en revanche tu t'appuies sur d'autres exemples et que tu es un peu plus pressant, tu es plus présent dans le contre-pressing, tu fais moins d'erreurs techniques, je pense que tu peux le faire, mais j'espère en tout cas un retour d'un milieu à 3 contre Milan.
D'accord. Et toi, Bobo, du coup, est-ce que tu penses, parce que pour mémoire, hein, c'était Clermont, hein, contre Newcastle, on avait fait match nul. Est-ce que la victoire d'aujourd'hui, parce que je me fais un peu troller sur l'emploi de la force avec les pouces, donc est-ce que pour toi, la victoire d'aujourd'hui va nous donner de la force pour aller taper Milan mercredi?
Je ne sais pas dire si le match va vraiment influer sur le match de mercredi.
Hein? Ça a un impact sur la confiance quand même.
Oui, pour certains joueurs sûrement, oui, ça lance le collectif, ils viennent de se retrouver, c'est important de gagner ce match, quoi qu'il arrive, c'était important de gagner ce match. Après, moi, les principales questions, elles sont autour du système, hein, je reviens là-dessus, mais pour moi, tout se joue là-dessus. On a un match référence avec Dortmund où on était vraiment complet sur toutes les parties du terrain. Je trouve que nos attaquants ont plus des profils d'attaquants de côté plutôt que d'ailiers. Et donc, c'est plus naturel pour eux de jouer à 3, je trouve. Quand on parle de Dembélé, quand on parle de Kolo Muani, qui pour moi est un attaquant de côté, doit jouer soit à droite, soit à gauche, profil Kylian Mbappé, hein, tu l'as dit, tonton. Ça me semble complètement valable de ce point de vue-là, en termes de profil. Donc, je n'ai pas vu assez Milan pour me prononcer sur Milan. Tu
n'as que Barcola qui peut vraiment jouer ailier, qui a vraiment le profil au PSG pour l'instant.
Exactement. Donc, après, je ne les ai pas vus, à part contre Marseille, je ne les ai pas vus très bons dans le contre-pressing à 4, mais Marseille, c'est un match à part. Donc, j'aimerais bien, si on reste dans ce schéma à 4, ce qui est très probable, on va parler de la réalité, parce que Luis Enrique, il a l'air quand même assez buté sur ses choix. Donc, c'est possible/probable qu'on se retrouve à 4 mercredi. J'aimerais bien les voir dans un gros match, parce que c'est vrai qu'en phase de poule, il y a moins de pression et on a entre guillemets la psychose qui ne rentre pas en jeu qu'on a pu avoir en 8e. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. J'aimerais bien voir si on est capable, ce qui n'a pas du tout été le cas face à Newcastle, si on est capable, dans un match de Ligue des Champions, de faire un match complet avec du contre-pressing, avec de la domination, avec des occasions contre Milan, si on joue à 4, ce qui est probable mercredi. Donc j'avoue que c'est un peu un point d'interrogation. Confiant dans l'absolu.
Pardon, excuse-moi, j'avais cru que tu avais terminé. Vas-y, je termine.
Non, ok.
Il y a quelqu'un qui nous demande, qui n'a pas vu le match, qui nous demande les points positifs. On va faire les tops et les flops juste après. Mais d'abord, est-ce que un de vous deux, Tonton ou Sora, vous voulez réagir à ce qu'a dit Bobo ou justement on passe et on enchaîne?
Moi, j'avoue qu'il y a des choses que j'aimerais voir quand même contre Milan, notamment en termes de profil de jeu et même d'état de forme des joueurs. Bien que j'adore Ousmane Dembélé, pour ceux qui me connaissent, je pense que là, en termes de match contre Milan, surtout que tu vas jouer contre Théo Hernandez en latéral gauche, Calabria latéral droit, va falloir que tu fatigues un peu tout ça. Moi, je serais pour mettre Mbappé à gauche et mettre Barcola à droite, parce que Barcola va pouvoir justement, c'est un joueur qui est très collectif, comme j'aime bien le dire, il va avec Hakimi, je pense, justement bien fatiguer la paire Léao-Hakimi, et comme ça, tu peux te permettre, genre 70e, de faire entrer les Kolo Muani et Dembélé. Et en espérant que cette fois, ils fassent une meilleure rentrée que ce match-ci. Mais je pense qu'il n'y aura même pas besoin de leur dire. Ils seront déjà eux-mêmes plus motivés à l'idée de faire une grosse rentrée contre Milan que contre Strasbourg. Donc, si tu mets un Ousmane Dembélé et un Randal Kolo Muani sur le banc contre Milan et que tu les fais rentrer en cours de match, une fois que tu as bien fatigué l'équipe adverse avec ton style de jeu, ben, je pense qu'ils risquent d'être un peu plus pertinents qu'en rentrant dans un match déjà plié contre Strasbourg avec un bloc à 5 derrière.
Alors, je me dois de réagir à ce que tu dis. Pour moi, Kolo Muani, tu le fais rentrer devant déjà. Enfin, toi, Kolo Muani à 80%, je ne sais pas s'il sait ce que ça veut dire. Il a montré son niveau. Il ne faut surtout pas qu'il joue attaquant. Attaquant, il a un seul mode de jeu. J'y vais sur mon petit quart d'heure, Kolo Muani. Hein. C'est avoir 20 mètres devant lui, courir plus vite que le mec et donc récupérer et arriver sur la balle avant. Mais il n'a aucune variation dans ses appels. Comme au PSG, on n'a jamais 20 mètres d'avance. Ben, en tant qu'attaquant pur, ce n'est pas la réponse. On l'a vu à Paris. Si on le fait rentrer, il faut le faire rentrer sur l'aile. Donc moi, je ne fais pas rentrer Kolo et Dembélé. Mais bon, ça c'est moi à titre perso, mais pourquoi pas faire rentrer Kolo à la 60e en effet, mais sur l'aile, parce qu'à mon avis, il fera beaucoup plus de différence à cet endroit-là. Et sinon, après, je suis comme vous, mais malheureusement, si on regarde un petit peu les choses, vu les temps de jeu, Kolo Muani, ça se dirige tout droit vers une titularisation à Milan. Ça reste à confirmer, mais ça se dirige tout droit vers ça.
Je suis pas sûr. Hein.
Il a reposé certains joueurs, il les fait rentrer en fin de match. À mon avis, c'est pour les mettre. On verra, hein, mais c'est que moi, c'est en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Alors, messieurs, maintenant, je vais vous proposer de passer au top et flop. On va commencer par les tops. C'est alors maximum 3 joueurs. Et honneur au nouveau, on va commencer avec Soura. Tu peux me donner tes 3 tops, Soura, sur ce match?
En top, je vais mettre Kylian Mbappé, puisqu'il a quand même été décisif sur les deux buts. Bradley Barcola, ce qui montre encore une fois de la personnalité. Et Fabian Ruiz, parce qu'il a été juste dans ce qu'il a fait et dans son rôle. Donc, c'est les 3 que je vais mettre en top.
Je te laisse enchaîner, tonton, avec les 3 tops.
Manque d'originalité, Bradley Barcola, joueur très collectif que j'aime beaucoup et que j'espère voir de plus en plus sur le terrain. Lucas Hernandez, j'aime beaucoup ce qu'il montre en défense, en tout cas, donc deuxième top. Et en troisième, si j'étais un troll, je dirais Donnarumma parce qu'il n'a pas pris de but. Mais non, je vais plutôt dire un Fabian Ruiz parce que même si j'ai été dur parfois avec lui, là, il a quand même fait une bonne prestation quand même.
Et toi, Bobo, vas-y.
Je ne vais pas être très original. Lucas Hernandez, il était vraiment facile ce soir. Il était dans des chaussons. Donc top. Danilo et Barcola.
Moi, je vais mettre Soler dans les 50 mètres adverses. Pas dans nos 40 mètres, mais dans les 50 mètres adverses. Pour moi, ça a été pas loin d'être l'homme du match. Je vais mettre Gonçalo Ramos parce que je l'ai trouvé très intéressant dans son jeu sans ballon. Après, ça manque de décisivité, mais je l'ai trouvé vraiment très, très intéressant dans son jeu sans ballon. Et je vais mettre Marquinhos pour sa première mi-temps parce que, mine de rien, sur la première mi-temps, il rattrape quelques lenteurs de Danilo et pas seulement quelques-unes, il en rattrape plusieurs. Il couvre Soler un nombre de fois. Enfin, il se trouve par moment à défendre pour 3. Il a retrouvé une vraie distance dans son jeu au pied. Pour moi, il fait une première mi-temps qui est très, très bonne. Il s'écroule un peu en deuxième par fatigue, mais du coup, sa première mi-temps, j'ai vraiment envie de la mettre en top. Et du coup, on va enchaîner avec, pour vous, c'est quoi les 3 ou moins, hein, mais pas plus de 3. Bobo, c'est quoi tes 3 flops du match?
Flop, Kangin Lee, on l'a pas vu, malheureusement. Après, vraiment flop. c'est compliqué. Flop. Ouais, Kangin Lee, comme ça, qui sort. Faut que je réfléchisse pour les deux autres.
Vas-y, Soura.
Moi, je mettrais Kolo Muani et Dembélé, parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose dans leur rentrée. Et en plus, je sors 2 joueurs et je fais rentrer Dembélé et Kolo Muani. Normalement, tu es censé dire que, ah oui, ça, c'est de l'entrée. Et tu es censé finir le travail derrière. Et en troisième flop, je mettrai Strasbourg parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose et ils n'ont pas été dangereux.
Juste pour Dembélé, je crois que c'était pas à la fin du match, mais c'était vers un quart d'heure ou 20 minutes après son entrée. 5 minutes avant la fin, il avait fait 12 duels et il en avait perdu 11. Je te laisse enchaîner, tonton.
Essaye de me faire passer un message avant que j'ouvre.
Non, c'était juste pour aller dans le sens de soi. Dembélé, il a tout raté. C'est aussi simple que ça. Il a tout raté. Il n'a rien réussi.
Non, bien sûr. Je soupçonne une certaine propagande anti-Dembélé parce que quand un certain Carlos Soler fait ce genre de propagande, on n'entend pas ce genre de statistiques sortir. Cependant, oui, je suis obligé de mettre Ousmane Dembélé parce que je suis bon joueur.
Dembélé joue à son poste.
Et je suis exigeant.
Soler ne jouait pas à son poste à l'époque. Enfin, tu vois, on compare ce qui est comparable. Mais tu peux finir maintenant. Oui.
Ouais. Donc Ousmane Dembélé, je suis obligé parce que j'aime beaucoup Ousmane Dembélé et logiquement j'ai de l'exigence envers les joueurs que j'aime et comme je suis exigeant, je ne peux pas dire qu'il a fait un bon match, je serais quand même de mauvaise foi. Kolo Muani, pareil, dans le sens où Randall, il était censé apporter justement, c'était le bon profil, il arrive en cours de match, l'équipe adverse est un petit peu fatiguée en fin de match, c'est plus facile de performer à ce moment-là que s'il était rentré comme neuf titulaire, je le préfère justement soit sur l'aile, soit en cours de match dans une attaque peut-être même à 2. Mais il n'a pas performé. Et en dernier flop, moi, je vais mettre Patrick Vieira parce que, mine de rien, son Strasbourg, il joue comme s'il avait les résultats, sauf que ce n'est pas le cas. Il est trop pragmatique et j'ai eu l'impression que c'est un match qu'on va vivre genre 8 fois sur 10 en championnat de Ligue 1 cette saison. C'est-à-dire un bloc bas, très original, une équipe qui va tenter de jouer le contre et les coups de pied arrêtés et ne quasi rien produire dans le jeu. Voilà.
Ok. Tout a été dit, hein. Pour moi les 3 c'est Kangin Lee qui était complètement perdu sur le terrain, un petit peu mieux en fin de deuxième quand il a changé d'aile, il est beaucoup plus à l'aise à gauche en fait quand il est ailier, j'ai remarqué ça, Mais sinon, oui, les entrées de Dembélé en tête et Colomboigny. Colomboigny a réussi un truc, Dembélé n'en a pas réussi un seul, c'est impossible de ne pas les nommer. Et pour les autres, bah, tout le monde a au moins essayé. C'est plus un défaut d'équipe, d'organisation d'équipe, que des problématiques individuelles, j'ai trouvé. Messieurs, est-ce que vous voyez des choses à ajouter ? Eh bien, écoutez, c'est bien cool. Mine de rien, pour un live après match, on en est à 50 minutes. Je pense que normalement, on est censé les faire en une demi-heure. On s'est un peu lâché. Après, à 4, c'est difficile de maîtriser le temps. J'espère que vous avez kiffé un bon moment. Vous avez kiffé et vous avez passé un bon moment. Si vous êtes toujours avec nous, vous n'avez pas encore mis votre pouce, faites l'effort. Honnêtement, ça nous aide et vous, ça vous coûte rien. Et si vous êtes là depuis le début, c'est que vous avez passé un bon moment. Ce fut un plaisir de tous vous voir. Je vais pas commencer en citer certains parce que sinon, je vais en oublier beaucoup trop. Et merci à Soa et à Bobo qui ont fait leur première avec nous. J'espère que vous avez passé plaisir. Un bon moment, messieurs.
Très bien, grand plaisir.
Et ben, c'est très, très cool. Et je vous dis ciao tout le monde. Et ici, c'est Paris.
À bientôt.
Ciao.